à la fin du à la fin de l'islam. Attendez deux secondes, c'est pas ce texte-là. Non. Attendez deux secondes. Ok, on a le texte. Regardez, on est donc encore avec le Chacham, le sage de l'islam, qui parle avec le roi des Khazars et qui finit son premier discours. Et il dit, qui sait faire Torah Tenu d'Ivrei Elohim. Vous l'avez ici dans le, sur l'écran? Qui sait faire Torah Tenu d'Ivrei Elohim. Le livre de notre Torah et les paroles de Dieu. Ve'u be'atzmo mofet. Et il est en soi un miracle. C'est-à-dire qu'ils vont dire que le Coran est un livre de Dieu et c'est en soi le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils acceptent l'écrit, le katouv, ce qui est marqué, comme étant une preuve que le Coran vient de Dieu lui-même. Itrayavnu bekibulo beavur atzmo. Nous avons accepté, nous nous sommes engagés, bekibulo, lorsqu'on a accepté ce livre comme étant un livre divin, beavur atzmo, à cause de ce livre-là, de lui-même. Mipne she, parce que en adam yachol lechaber sefer acher kamou. Personne d'autre ne peut écrire un livre comme lui. Non, le problème, comme on a dit, l'islam, c'est 620. Quand est-ce qu'il va commencer à recevoir la révélation? Ça va être en 610. En l'an 610, il y a énormément d'écrits. On est après l'écrit de la Torah, après l'écrit du, pour les chrétiens du Nouveau Testament. On a la mythologie grecque. Il y a énormément d'écrits d'histoire. Mais eux disent que ce livre-là, si on le lit, on fera très attention que personne d'autre que Dieu ne peut écrire un livre tel qu'il est. Velo ke parasha achat min parashotav. Et même une infime partie, c'est-à-dire une partie, une parasha de ce livre, ne peut être écrite autre que par le divin lui-même. Veshenivi enu ou chotam anevim. Et que notre prophète, nos prophètes, c'est la fin des prophètes. C'est-à-dire que lui, Mohammed, quand il vient, c'est lui qui reçoit, d'après lui, la vraie Torah qui est écrite par le Coran. Le Coran est la nouvelle Torah. Et la dernière version de la Torah que Dieu a donnée à Israël. Et par conséquent, il vient fermer la période des prophètes. C'est-à-dire, donc encore une fois, on a, comme reprendre, dira le Avraham Livini dans son livre, il dira, on parle d'étouffement de la prophétie. C'est quoi l'étouffement de la prophétie? Dieu ne parle plus aux hommes. Pourquoi? Parce que le dernier homme avec lequel Dieu a parlé, c'est Mohammed. Et il lui a parlé par l'intermédiaire d'un ange qui s'appelle Gabriel, l'ange Gabriel, Djibril. Et par conséquent, puisque c'est les derniers prophètes, Mohammed, Mahomet, c'est lui où Mevatel Kol Torah chez Kadma. Ça vient annuler toute la Torah qui l'a précédée, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, je ne peux pas dire dans une phrase, les Avdil ben Emet Vesheker, pour faire une différence entre la vérité et la Torah, notre Torah, et ce que les chrétiens après ont rajouté de par eux-mêmes. Mais dans la conscience de l'islam, on vient annuler, le Coran doit être accepté par toutes les religions monothéistes, parce qu'en fait, c'est la vraie Torah. Il fallait juste mettre au courant. Ve'kore kol ha'umot el Torah Ishmael. Et il appelle toutes les nations à la Torah de Ishmael. On avait dit que eux, ils prennent en avant Ishmael. Ishmael, pourquoi ils ont choisi Dafka, le fils de... Parce que c'est leur descendance au niveau génétique. Mais Ishmael vient du mot Mishmaat. Mishmaat, ça veut dire la discipline. Donc, on est à l'écoute de Dieu, on s'annule face à Akadosh Bokhu et tout le monde doit s'annuler. Donc, l'appel de toutes les Oumot. Ce qui fait appel à la volonté de transformer le monde entier à l'islam, sous le joug de l'islam. Que tu habites n'importe quel coin du globe terrestre, tu dois te soumettre à la Torah de l'islam. Et ça, ça ressemble à la chrétienté, que la chrétienté aussi veut qu'on accepte Jésus comme étant Dieu qui est devenu chair et qui a été assassiné par les juifs. Ça, tout doit être accepté par le monde tout entier. On verra que dans le Misraël, il n'y a aucune histoire comme ça, que le monde entier doit accepter la Torah d'Israël. On ne veut pas et ce n'est pas du tout le but. Mais dans la pensée musulmane, en effet, le monde entier doit accepter cette religion. Ou gmul hom'o Ashavat Rucho El Gufo Belgan Eden ou Neimot. Et qu'est-ce qui va se passer? Une personne qui écoute le Coran, etc., qui respecte les lois de l'islam, ils vont accéder au Gan Eden, Neimot, à la douceur, les bonnes choses. Lo Yersar Ma'achal Umishte. Il ne manquera d'aucune nourriture et d'aucune boisson. On parle du paradis, on parle du Gan Eden. Umishgal Vechol Asher Teave Nafsho et toutes d'autres choses que l'âme désire. C'est-à-dire, on parle mamash uniquement des biens matériels qu'il loue, des biens c'est un animal qui veut manger et boire et avoir au niveau du nefesh, de l'âme vitale. Il ne parle pas de la neshama, il ne parle pas de le ta'anoug, de délice, de l'esprit, etc. Non, on parle mamash quelque chose de bestial. Ve'onesh, par contre, il aura la punition à mamre alichato el esh. Celui qui va justement se rebeller contre les lois de l'islam, alors il va tout droit vers le feu, velo itamu isurav leolam, et il n'aura jamais de possibilité d'éviter ses souffrances à jamais. Amarlo Akuzari. Et là maintenant, le roi des Khazars vient répondre à l'islam, et lui dit, Mishirotzim le yasher oto bidvar Elohim, ou levarer etzlo ki Elohim edaberim basar vadam, veu machigze, tsari levarer etzlo devarim mifursamim, she'en mitre lahem. Alors on y va. Le Kuzari nous dit, tu as dit qu'en fait, il y avait un homme, Mohammed, à qui l'ange Gabriel s'est dévoilé, très très bien, mais ça voudrait dire que Dieu parle aux hommes, mais « Mishirotzim liyashiroto bidvar Elohim », celui qui justement, il veut mettre à droit, en yachar, c'est-à-dire remettre droit ses comportements au sujet de la parole du Dieu, ou « Levarer etzlo ki Elohim medaber im basar vada » et expliciter, c'est-à-dire expliquer que Dieu parle avec Bassar Vadam, avec un être de chair et de sang. Veumachigze, et les hommes, ils s'éloignent de cette idée. C'est une idée qui n'est pas simple à comprendre, à accepter. Tsarir levarer etzlo dvarim mefursamim, shen mitrelaim. Il faut lui expliquer des choses qui sont connues et répandues et que personne ne peut remettre en question. Ou beyoter aouche yeumat etzlo ki abore diberim adam. Encore mieux que ça, il faut que Yehoumat, comme on dit les Mehoumat, un cholé Mehoumat, c'est-à-dire qu'il doit avérer vrai le fait que, en effet, en vérité, Dieu parle aux hommes. Il faut qu'il ait une preuve très très grande que Dieu parle aux hommes. La meilleure des preuves, c'est que lui-même aurait une expérience comme cela. Ve'im, par contre, si, c'est faire Torah Trem. Donc la première Kusha, le premier refus du roi des Khazars d'accepter l'islam, c'est moi, hein, la névoie, la prophétie, je ne connais pas. C'est-à-dire, il faudrait arriver à comprendre comment Dieu peut parler avec l'homme. Est-ce que ça existe que Dieu parle aux hommes? Donc, la première des choses, c'est la névoie, la prophétie, le problème de la prophétie. Deuxième problème, Ve'im sefer Torah trem, mofet lachem ve'u belchon aravi. Vous avez dit que le Coran est une preuve par lui-même, par l'écrit, que la Torah, que le Coran a été donné par Dieu, parce que personne ne peut écrire un écrit tel qu'il a été écrit. Par conséquent, il est clair que seules les personnes, Ve'u bilshon arabi, or c'est écrit en arabe, le Coran a été écrit en arabe, En makir mofto ve'ot shelo, lo'ez kamoni. Maintenant, moi, je parle une autre langue, je suis lo'ez. Je suis une personne qui parle le langage des autres nations. Moi, je ne connais pas le prodige de cette écriture, parce que je ne comprends pas l'écriture. Je ne comprends pas la preuve que le Coran est écrit par le divin, parce que je ne comprends pas l'arabe. Et lorsqu'on me fera lire, on me lira le Coran à mon oreille, je ne ferai aucune différence entre ce livre et un autre livre écrit aussi dans la même langue de l'arabe. Hazak. Maintenant, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire?
Arabe, la réponse, elle est facile, non?
La réponse, elle est facile. Ok. Va l'ulpan du Mhon Meir pour apprendre l'arabe.
Convertissez-vous à l'islam. Apprenez l'arabe de façon à comprendre comme nous, on comprend la Torah en ayant grandi en France. Et tout va bien.
Exactement. C'est-à-dire, tu dis, apprends l'arabe.
Convertis-toi d'abord.
Convertis-toi et apprends l'arabe.
Et après, tout va bien.
Il a fait. Maintenant, le roi des Khazars. Maintenant, Otpam, hein, notre discours, il est simple. C'est-à-dire, le roi des Khazars, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Ça marche? Je répète ça mille fois parce que des fois, ça choque les personnes. C'est Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, c'est considéré comme un Rishon, comme un Rav de l'époque des Rishonim, c'est-à-dire de l'an 1000 à l'an 1500, ça s'appelle les Rishonim. Comme Rashi est un Rishon, comme Rambam est un Rishon, comme Ramban est un Rishon, comme le Rashba, Ridva, le Roche, le Rif, tout ça c'est des Rishonim. Les Tosafot, c'est des Rishonim. Rabbi Yehuda Halevi, c'est un des premiers Rishonim. Il est en l'an 1000, à la fin du 11e siècle. Donc c'est Rabbi Yehuda Halevi qui va répondre, en fait, qui a mis en avant l'islam. Lui, il écrit vraiment ce que l'islam pense. Et c'est lui qui va donner la réponse du roi des Khazars. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi à travers la bouche du roi des Khazars? Il lui dit, je ne peux pas accepter l'islam parce que je ne comprends pas l'arabe. Or, il y a un gros problème. La question de David, ben, l'arabe, c'est très simple. Il faut l'apprendre. Il faut aller à l'ulpan de l'arabe. Tu apprends et tu verras certainement la grandeur et la puissance de l'écriture dans le Coran. Or, c'est quoi le problème? C'est que même si on apprend l'arabe, on n'arrive pas à avoir les finesses et la compréhension de toute la culture qui est autour de cette langue. C'est-à-dire, prenez une personne qui va apprendre le français. Il y a toute une culture autour de la langue française. Les mots qui sont ils sont à apprendre au sens figuré, à la troisième, quatrième sens, l'humour qui est à travers toute la culture de la langue française. Tout ça, c'est une personne, même si elle a un français très, très élevé, elle mettra énormément de temps à comprendre les finesses de la langue française. Et par conséquent, si... Le sage de l'islam dit, tu en apprenant l'arabe, tu comprendras, c'est faux, c'est impossible. Ce qui voudrait dire, et c'est ça comment Rabbi Yehuda Halevi va repousser le sage de l'islam, ce qui voudrait dire que le divin ne parle uniquement qu'aux arabes, qu'aux personnes qui peuvent comprendre la grandeur de ce livre. Ce qui veut dire que cela ne me concerne pas, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et là, c'est déjà l'ouverture à ce que va apporter le sage d'Israël, le rabbin d'Israël. C'est-à-dire que la Torah ne vient pas changer la nature. La Torah ne vient pas changer la nature. Ou le dévoilement de Dieu ne vient pas changer la nature des personnes. Israël, il n'a pas la volonté que si c'est pris comme une religion, et c'est faux, mais si c'est pris comme une religion, n'a pas la volonté que tous les goyim du monde entier se convertissent au judaïsme pour pouvoir réaliser la volonté du Dieu suprême de tous les humains. Non, il s'appelle chez nous Eloke Israël, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. C'est pas le Dieu du monde. C'est pas le Dieu. Il y a le Dieu du monde. Il y a le Boré Olam, le Créateur du monde. Mais nous faisons la Torah d'Israël dévoilée par le Dieu d'Israël. Et le roi de...
Il y a le même problème avec la Torah. Elle a écrit en araméen, on l'a traduit. Là, la traduction, ils disent que pour le Coran, la traduction n'est pas valable. Si tu traduis le Coran, c'est pas valable.
Non, tu peux traduire, mais tu ne comprendras pas la grandeur et tu n'auras aucune preuve que Dieu a écrit ça. C'est seulement dans sa langue originale que tu peux vraiment comprendre que ça vient du divin. Maintenant, au niveau, je vous rassure, au niveau scientifique, les scientifiques, contre cette raison-là, ils disent, mais de quoi tu me parles? Peut-être dans des pays où on n'avait pas l'habitude de l'écriture, de la lecture, et toutes ces choses-là. Alors, on peut, vous pouvez être, il était, d'après les historiens, il était Mohammed, il était illettré. C'est-à-dire donc, et un alphabète. Donc, ça veut dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être dans des pays où l'écriture ne connaissait pas, mais nous venons de tarbouillot, de culture, que ça fait des milliers d'années où il y a l'écriture, où il y a la lecture, où il y a des connaissances, des histoires. Il y en a énormément dans toutes les civilisations. Donc, si pour vous, ça a été un chidouche, c'est peut-être très bien, mais ça vous concerne vous uniquement. Maintenant, je rajoute une fois ce que le Rav Rucher qui avait dit, et c'est rattaché avec l'enseignement du Rav Ashkenazi, c'est que peut-être une partie du Coran, c'est fait pour l'islam. L'erreur de l'islam, c'est vouloir appliquer cette loi qui est pour le peuple arabe au monde entier et d'en faire un djihad et d'annuler la Torah. Mais ça, il faut faire très attention. Cette volonté d'annuler la Torah, cette volonté de conquérir le monde pour pouvoir que tout le monde accepte l'islam, ça a été développé par Mohammed. Je ne sais pas si on peut comprendre ça par rapport au dévoilement du Coran. Or, on voit que dans le Coran, oui, il y a des choses qui sont adaptées pour l'esprit des peuples arabes où ils sont développés, là où ils se sont développés. Mais de là à dire que c'est la religion internationale et que tout le monde doit accepter ça, alors le roi des Khazars a dit, mais non, ce n'est pas ma nature. De la même façon qu'un goy pourra dire, Israël, ce n'est pas ma nature. Il faudra savoir quoi répondre à lui. C'est-à-dire ? Donc, l'ulpan, ça ne va pas être une solution pour le roi des Khazars. On ne peut pas, nous, si c'est ça la preuve que le Coran et l'existence de Dieu, c'est une preuve qui ne me concerne pas, parce que moi, je ne peux pas avoir cette preuve. Faites très très attention. Si on vous dit que Hachem, on a une preuve de l'existence d'Hachem, et c'est une preuve scientifique très 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 profonde, c'est très grave. Cela voudrait dire que prouver l'existence d'Hachem n'est réservé seulement aux personnes qui comprennent la physique, qui ont un esprit physique, un esprit dans ce domaine-là. Or, ça voudrait dire que la croyance de Dieu serait réservée à certaines personnes. Ça, c'est très grave. C'est un peu ce que dit le sage de l'islam. Il dit, c'est réservé en fait aux Arabes, mais ouvrez l'effort d'apprendre l'arabe et vous verrez. Alors, des cas, avec tout l'effort que je fais, si maintenant je veux avoir la pleine conscience que le Coran est la vérité, il faut que je sois un arabe et je n'en suis pas. Et donc, je ne peux pas arriver à cette... Je ne peux pas découvrir ça. Je ne peux pas découvrir la divinité de ce livre parce que je n'ai pas accès à ça. Je n'ai pas l'accès à la culture arabe. Je ne suis pas né dans ça. Et même si j'apprends, ça sera toujours extérieur, ça ne sera pas vraiment de l'intérieur que je puisse me rendre compte. Ça, c'est la première, la chose facile à répondre par rapport à l'argumentation de l'islam. La deuxième chose, oui.
Il y a la différence avec les chrétiens, pareil en latin, ceux qui ne comprennent pas le latin, ils comprennent rien.
Jamais les chrétiens ont dit que c'était les écrits qui sont la preuve du divin. Faites très attention, l'islam, c'est le seul à dire que le Coran, le livre, c'est la preuve de leur foi. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ne parlent pas. Les chrétiens, ils disent qu'ils ont écrit par leurs prophètes, par les apôtres, etc., bien sûr. Mais ils ne basent pas leur foi sur ça. Ils basent que, justement, on parle de Jésus. On parle de Jésus, et il a fait des choses extraordinaires, et il faut les accepter. Via l'islam, elle te dit, c'est le Coran qui est divin. C'est ça sa preuve, comme quoi nous sommes la vraie religion, et tout le monde doit s'appuyer, c'est par rapport au livre du Coran. La deuxième chose que le roi des Khazars met en avant, c'est tu me parles du Coran, donc tu me parles de la prophétie. Or, moi, la prophétie, je ne connais pas la prophétie. C'est très difficile pour moi d'accepter que Dieu parle aux hommes. Maintenant, faites très attention, c'est ce qui va se passer avec Mohammed. Mohammed, lui, Mohammed, Mahomet, va venir devant les Juifs de Médine et va leur dire, l'ange Gabriel m'a parlé, il m'a donné la vraie Torah, et il faut accepter cette vraie Torah. Qu'est-ce que font les Juifs ? Même pour Moshe Rabbeinu lui-même, même pour Moïse lui-même, ils n'ont pas accepté le fait que Dieu parlait aux hommes. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas, il faut revoir dans la paracha de Mishpatim, dans la paracha d'Yitro, juste avant le don de la Torah, on voit qu'il y a un discours entre Hachem, Moshe, et Moshe et le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous donner la Torah, dit à Moshe, je vais donner la Torah au peuple d'Israël, préviens-les. Moshe se tourne vers le peuple d'Israël, va annoncer qu'il va donner la Torah, et le peuple d'Israël dit non, nous, s'il va nous donner une loi, nous voulons l'entendre. C'est le fameux Midrash, ne ressemble pas l'écoute du roi ou l'écoute du serviteur du roi. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut comprendre de ça ? C'est que d'après certaines explications, le peuple d'Israël ne pensait pas une seule seconde que HaKadosh Baruch Hu pouvait parler aux hommes. Ils ont cru Moshe dans la paracha de Shemot. Ils ont cru Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles. Oui, il a fait des miracles, mais il pensait que c'était de la sorcellerie peut-être, des forces divines. Mais il a parlé un message qu'il connaissait. Quel est le message qu'il connaissait? Quel est le message que le peuple d'Israël connaissait dans la paracha de Shemot? Pakod ifkod Elohim etrem. Ils avaient reçu de Yosef que viendra un jour HaKadosh Baruch Hu et rappeler, il se rappellera d'eux, des enfants d'Israël, pour les sortir d'Égypte et les ramener en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, Moïse se présente au peuple d'Israël, il dit Hachem s'est rappelé de vous et le but c'est vous ramener en Eretz Israël. Ça, il savait qu'un jour viendrait, qu'il quitterait la terre d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. La seule chose qu'il ne savait pas, et ça n'avait pas été donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on recevrait la Torah au mont Sinaï. Et lorsque Moïse, il va dire maintenant, Dieu il va nous parler, il va nous donner, ils n'ont pas cru à ça. Et ils ont demandé à Kadosh Bourou, à Moshe de dire à Kadosh Bourou qu'il lui parle, que Dieu parle aux enfants d'Israël directement. Et là, Moshe retourne à Hachem, elle a dit, ils ne veulent pas m'entendre, ils veulent Mipi Ameler, de la bouche du roi. Et c'est pour ça que Hachem va parler les deux premières paroles, et une fois que l'homme Israël va entendre les deux premières paroles des 10 commandements, ils vont refuser de continuer, parce qu'ils vont se dire, jusqu'à maintenant, bon, Hachem, on n'est pas mort, maintenant, on a compris que Hachem parlait, donc ça va être par toi, Moshe. Maintenant, il y a une très très grande différence entre ce que disent les chrétiens et ce que dit l'islam et ce que nous, on aura un compte de nous-mêmes. Le Ham Israël a toujours été avec un esprit critique très, très, très grand. Vous voyez en Israël aujourd'hui ce qui se passe? Ben, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui étaient pour, des gens qu'on trouvait qui étaient contre, des gens qui disaient « ça, c'est la vérité », d'autres personnes qui disaient « non, ça, c'est la vérité ». Il y a toujours eu des machlokot. C'est-à-dire, et jamais le Ham Israël, avec l'esprit critique qu'il avait, ne pouvait accepter une personne qui disait « Hachem m'a parlé et je vais vous transmettre ce qu'il m'a dit ». Seuls les goïms sont capables de croire des choses comme ça. Et je vous donne un exemple. Il y a une religion qui a été inventée par Joseph Smith. Ok, vous taperez après sur Internet, vous chercherez. Il s'est baladé, il était aux États-Unis au 18e siècle. Il se balade dans le canyon, dans les grands canyonimes du Texas ou je ne sais plus quoi, et il monte dans une montagne et il se passe. C'est une histoire qui est considérée comme une histoire vraie. Et il va dire la chose suivante, à un moment donné, la montagne s'ouvre et quand la montagne s'ouvre, je découvre un livre écrit par une écriture magique, mais Baruch HaShem, il y avait des lunettes en or à côté de ce livre. Il met les lunettes en or et il arrive à découvrir ce que Dieu lui transmet. C'est-à-dire, il arrive, il descend de la montagne et il raconte ce qui s'est passé et il commence à avoir des disciples autour de lui. Ça a fait la religion des...
Mormons.
Il y a fait mode, la religion des Mormons. Maintenant, combien de Mormons existent aujourd'hui dans le monde?
Trop.
Alors, on y va. 8 millions. Maintenant, quand on dit des Mormons, 8 millions, c'est les Hadoukim. C'est-à-dire, c'est des gens qui mettent toute la technologie de côté, pas de téléphone, pas d'eau, pas d'électricité, etc. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont à hyper religieux par rapport à leur religion Mormon. Il n'y a pas Mormon Chiloni, ça n'existe pas. Il n'y a pas Mormon Chiloni qui mange du n'importe quoi le jour de leur Kippour. C'est tous des 8 millions, mais de religieux extrémistes. C'est-à-dire plus que l'âme Israël. L'âme Israël, il y a 8 millions de religieux hadouk de Torah et Mitzvot, Alvaï, Bezrat Hashem. Ça voudrait dire, c'est déjà une avancée énorme. Alors, ça n'existe pas. Tout ça par une histoire d'un homme qui raconte ce qui lui est arrivé. Et là, on touche du doigt à ce que le Rabbi Houda Alevi va nous faire sentir. Toutes les religions veulent nous faire croire ce qui s'est passé sur une personne. On parle de Jésus. Jésus, il s'est passé, c'était le Fils de Dieu, il faut accepter, etc., etc. Mohamed, j'ai eu une révélation, il faut me croire, etc., etc., etc. Le seul religion. John Smith, les Mormons, la même chose. J'ai vu ça, ça s'est passé, il faut me croire. Maintenant, personne ne l'a vécu, personne ne l'a vu. Personne n'était avec Mohamed lorsque Djibril lui a parlé. Peut-être il lui a parlé. Je n'ai pas dit qu'il ne lui a pas parlé. Peut-être. Mais est-ce qu'ils étaient présents? Non. Personne n'était présent pour être sûr que les miracles, les naguides que l'acrobate a fait, que Jésus a fait, ça s'est avéré vrai, ils ont vérifié, etc. Non, ils ont dit, il faut accepter, il était comme ça, c'était Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais le peuple n'a pas vécu une relation avec le divin, ni le peuple musulman, ni les chrétiens. C'est accepter ce qui est arrivé à une personne. Et ça, ça fait une différence énorme avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, on love dit mal et nous. On ne peut pas nous inventer des histoires. Et quand Mohammed, vous comprenez bien, il croyait qu'il a influencé et il a avoir des disciples parmi les juifs, pas du tout. On ne va pas croire une personne que Dieu lui a parlé et qu'il faut accepter. Même Moshe Rabbeinu, comme je vous dis, on a mis du temps avant de l'accepter, jusqu'à ce que l'âme Israël entende la parole d'Hachem. Sinon, on n'était pas prêt à l'accepter. Donc, le roi des Khazars dit, tu parles de la prophétie. D'abord, toute chose nouvelle et au-delà du rationnel, tant que je ne l'ai pas vécu, c'est très difficile pour moi de l'accepter. Donc, tu m'essayes de me dire d'accepter par force une chose qui est pour moi est très, très difficile à accepter. Chez les chrétiens, ça, c'est un truc incompréhensible que l'Europe, qui met en avant d'Afrique rationnelle, était prêt à croire l'incroyable, l'irrationnel par excellence. Mais l'islam, elle demande la même chose pour une personne qui ne croit pas à la névoie, qui ne croit pas à la prophétie. Très important. Oui, oui, justement, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on commence au début à rentrer dans ce que Israël va dire. Donc, comme c'est tout le but du cours. Ken David.
Est-ce que nous, on n'attend pas le Mashiach un peu comme ce libérateur-là, comme eux ont un peu découvert réciproquement leur truc? C'est-à-dire que nous, on parle Mashiach, on imagine un humain qui réalise presque des miracles cachés dans la nature et qui va faire la paix avec le monde, qui va faire toutes ces choses-là.
Okay. C'est un humain. Baruch HaShem, que Maïmonide nous a parlé, nous a donné les lois du Mashiach, que quand le Mashiach viendra, et ça c'est fixé, c'est la halakha, la loi fixée par Rabbi Moshe ben Maïmon, Maïmonide dans Mishneh Torah, que le monde, Aolam Keminago Noeg, le monde continuera de tourner comme il tourne. Si une personne pense que le Mashiach viendra et changera tout, il n'y aura pas. Les seules choses qui vont changer, il y a deux professions qu'il ne faut pas investir là-dedans parce que ça va changer. C'est la première profession, c'est avocat en Israël. Avocat en Israël, ça sera Dayan, ça sera selon la Torah. La deuxième profession qui va être abolie, c'est le journalisme. À moins que le journaliste décide de dire que du bien et de voir le bien. Sinon, ce sera la deuxième profession qui sera abolie. Sinon, toutes les autres professions continueront. Donc, il n'y a pas de miracle au-delà de la nature. Mieux que ça, on appelle Hamelech HaMashiach, c'est le roi qui est nommé comme étant en fonction publique, comme toute chose qui était en fonction publique, comme le roi, comme les ustensiles du Beth Amikdash, ils sont oints par l'huile parce qu'ils rentrent en fonction de la nation d'Israël. Rambam dit, le Mashiach, le Melech HaMashiach, c'est le roi de la nation. Ce n'est pas une personne qui va faire des prodiges. Plus que ça, il dira, j'ai une preuve qu'il ne va pas faire de prodiges. La preuve est de Rabbi Akiva lui-même, qui pensait que Bar Korba était le roi Mashiach, et il n'a jamais demandé à Bar Korba, Rabbi Akiva, il n'a jamais demandé à Bar Korba de faire des miracles. Et par conséquent, Rambam dit, j'ai une preuve de Rabbi Akiva, que le Mashiach ne fera pas de miracles. C'est-à-dire, donc si on a une pensée mystique, surréaliste de l'avenue du Mashiach, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait 2000 ans que nous prions pour l'avenue du Mashiach. C'est quelque chose qui se réalise dans la nature. Un homme, une fois le Rav Zuckerman avait posé la question à Baba Salé, est-ce que le Mashiach est là, etc. Il lui avait répondu, il se balade dans les rues de Jérusalem. C'est un homme concret pour qu'il se dévoile. Il faut un homme concret. Mais la particularité du Mashiach, elle est très facile. C'est une personne qui souffre, pas comme les chrétiens, et là, qui souffre de voir le Ham Israël souffrir. Une personne qui met son ego totalement de côté et qui investit toutes ses forces pour son peuple. Ça, c'est une personne qui s'attache aux valeurs du Mashiach, qui peut être un Mashiach. Oh, qui doit être un Mitracham, érudit dans la Torah, etc., etc. Mais le Mashiach, c'est une personne concrète. C'est pas quelque chose qui descend du ciel et qui va être prophète, etc. Il n'y a pas marqué ça. Peut-être plus tard, quand la prophétie reviendra, oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de inyan de prophétie qui va dévoiler des paroles, etc. Il fait, c'est marqué dans le Rambam, il doit reconstruire le troisième temple, il doit rassembler les exilés, pas les exilés, il doit rassembler les repoussés d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, et il doit détruire Amalek. S'il fait ça, le Rambam dit que c'est une chazaka, que c'est une présomption que c'est le vrai roi de Mashiach. Sinon, c'est un roi d'Israël comme nous avons eu tous les rois. D'autres questions?
Oui,
je veux savoir si le...
Qui est le Mashiach, je sais pas.
Non, si Rabbi Akiva s'est trompé, nous, on ne va pas se tromper.
Chas v'shalom, c'est en cours en soi qu'on étudiera. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, tout va bien, mais sinon j'aurais crié. Si vous étiez les élèves à la yeshiva, j'aurais déjà crié. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. Regardez dans le Rambam, il chote Melachim, il s'est pas trompé. Et là.
Venez de le dire.
Non.
Qu'il s'est trompé avec Bar Korba.
Non, chas v'shalom. Je ne peux pas perdre mon lamaba. Si je dis que Rabbi Akiva va se tromper, je me mets en danger. Donc, je ne le dirai pas. Et là, la chose suivante. Rabbi Akiva est marqué dans le Rambam. Dimu vechol chachmedoro shu amelech HaMashiach. Ils ont imaginé, lui et tous les sages de la génération, qu'il était le roi Mashiach. Dimu, ça ne veut pas dire... Dimu, ça veut dire imaginer. Il avait tout pour être le Mashiach. Est-ce qu'il allait réussir? Alors, il y a marqué. Eyod veneerak beavonotam. Nodash et Ulomelech HaMashiach. Puisqu'il a été tué à cause de leur faute, alors on a su que ce n'était pas lui. C'est comme si il a tout pour réussir. Mais il y a la génération. Le Mashiach, il n'est pas tout seul. C'est le Mashiach de la génération. Si la génération n'est pas méritante, alors il ne va pas réussir. Mais il a tout pour réussir. Vous avez compris la réponse?
Oui.
Maintenant, faites très attention, ça c'est très important aussi. Dans le Rambam, il n'y a pas marqué il est mort à cause de ses fautes à lui, il est à cause de leur faute, de tout le peuple d'Israël. Parce qu'il y a des tendances religieuses qui veulent accuser Bar Korba d'avoir fauté, et par conséquent, il ne s'est pas dévoilé comme le Mashiach, c'est totalement faux. En tout cas, ce n'est pas ce que le Rambam dit. C'est les fautes de la génération. Parce que le Mashiach, il ne vient pas tout seul. C'est le roi du peuple d'Israël. Il s'appelle Ahad Ha'am, le un du peuple. Celui qui représente le peuple d'Israël. Donc, c'est les mérites du peuple d'Israël. On a le roi qu'on mérite.
Et vous avez dit.
En termes de politique.
Et vous avez dit que quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus de journalisme et il y aura la Kruka. C'est marqué où ça?
Non, ça c'est marqué ici. C'est marqué ici. Sauf si les journalistes ils font de Shuva, ils commencent à dire la vérité, le bien, le tov qu'il y a. Alors, ça, c'est ça, Tachem, le roi.
Bon.
D'autres questions?
C'est okay. Pas une. C'est deux réflexions. Une que j'ai entendue ce Shabbat du Rav David Ben Ezra qui dit que Moshe, quand il refuse sa mission, alors on a souvent l'impression de dire que c'est par fausse. Modestie, mais quand il y a non-assistance à personne en danger, c'est très grave. Hein, c'est. Alors, en fait, il dit que en fait, ce que Moshe veut dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que ne les délivre pas par un intermédiaire, ça ne marchera pas. Et en fait, le Chet Ha'Egel lui a donné raison, parce qu'il a dit « Zeh Moshe Ha'ish Aser Elanu Beret Mitzrayim ». Et donc, il disait aussi qu'aujourd'hui, de nos jours, cette Geoula-là, elle se fait par Kadosh Baruch Hu lui-même, sans intermédiaire. Ce n'est pas Herzl, ce n'est pas Jabotinsky, ce n'est personne. Jamais n'est prétendu, personne n'a prétendu être un intermédiaire. Il dit que pour ça, cette Geoula-là, elle est irréversible. Elle va dans un sens.
Zakobo, on continue sur ce qu'il dit là. Alors, il dit « Amar lo e chacham ». Maintenant, le sage lui dit, dans le sage de l'islam, il lui répond « Ugvar niru al yado moftim, arlo usbu leot bekibul torato ». Fait non, dans le Coran, il n'y a pas marqué beaucoup de miracles, mais il y a eu des miracles. Là, il dit, le roi des Khazars, il dit, En adat nocha leodot sheyesh labore chevra im basar vadam. Kim be mofet sheme aperbo teva advarim. Kedesh shivada kize lo yuchal alav ela mi shebara advarim me'ayin. Sheyi ainya nahu lifne amonim. Yiru beneem velo yagiem be sipur be kabbala. Il dit, regarde, que Dieu parle aux hommes, c'est très dur de comprendre une chose comme ça. Les seules personnes qui peuvent comprendre ça, c'est des personnes qui ont vécu homonyme, un grand nombre de personnes. Parce que si on a des personnes, une seule personne qui a vécu une chose, alors peut-être c'est une illusion, c'est un rêve, il a été sous effet de je ne sais quoi, Et par conséquent, il a eu une apparition. C'est arrivé, il y a des gens qui ont dit, mais je te promets, oui, c'est un rêve, c'est une apparition, tu t'es évanoui, il y a eu des choses particulières. Par exemple, on entend beaucoup ça, je ne remets pas en question, c'est-à-dire, je ne dis pas si c'est vrai ou faux, je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Une personne qui parle de la vie après la mort. C'est-à-dire des personnes très sérieuses qui parlent de la vie après la mort. Ici, à la Yeshiva, on a un rave qui a un ami qui a vécu des choses tout à fait extraordinaires et qui raconte. C'est sûr qu'il ne peut pas les inventer. C'est sûr, ça s'est révélé après, qu'il ne pouvait pas savoir, il a su des secrets. Bon, tout ça pour vous dire qu'il raconte une histoire que lui, il a vécue. Mais moi, je vais être très dur. Ce n'est pas parce qu'il a vécu que Zemer Chayev Oti, que ça m'oblige à faire quoi que ce soit. Vous êtes avec moi? Je remets ça avec Mohammed. Mohammed a vécu une relation, Nagid, avec, disons, avec l'ange Gabriel. Mais qui dit que l'ange Gabriel, parce qu'il s'est dévoyé à Mohammed, ça m'oblige à moi de me comporter d'une façon ou d'une autre? Oui ou non? Maintenant, vous, ça ne vous dérange pas ce que je dis là maintenant?
Bah,
Maintenant, posez juste des questions par rapport à ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce qu'il y a un dévoilement sur une personne que ça va forcer les autres personnes. C'est-à-dire, le divin lui a parlé, Shalom à l'Israël, quel rapport avec moi?
mais tous les prophètes alors en Israël,
Ouais.
ils ont reçu aussi un message de Dieu qu'ils ont transféré au peuple.
Il y a fait,
Toi,
très
tu
très bonne
l'as entendu et
question.
moi non.
Le premier prophète, ça va être Moshe Rabbeinu. Le premier prophète à l'époque du peuple d'Israël, où il y a maintenant un peuple d'Israël. On est dans les parachutes de Moshe et du Ham Israël. Donc lui aussi, le Ham Israël, il aurait pu dire. Il aurait pu dire ce que Hachem te dit, kol hakavod, mais ça ne me concerne pas. Viens Moshe Rabbeinu, viens Moshe Rabbeinu, viens Slicha, le peuple d'Israël. Et il dit justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous voulons entendre Hachem. C'est ça qu'il demande. Et qui a reçu la Torah? Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. C'est toute la nation d'Israël qui a reçu la Torah. Donc à aucun moment donné, à aucun moment donné, le peuple d'Israël, il reçoit ce qu'on lui a dit. Il accepte pas ce qu'on lui a dit. Ce qu'on lui a dit. Il y a des rabbanim ou des personnes, et même dans beaucoup, beaucoup de milieux, qui enseignent le Kuzari. Okay? Et quand ils enseignent le Kuzari, ils mettent en avant ce que Rabbi Yehuda Alevi va dire, mais c'est compris d'une mauvaise façon. Pourquoi nous devons faire la Torah? Pourquoi nous devons respecter la Torah Mitzvot? Quelle est notre preuve? La preuve, elle est que de génération en génération, on raconte la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Chaque année à Pessah, on s'assoit toute la famille. Le père, le grand-père, il a la mitzvah de raconter au fils. Il y a une force de massorette, de tradition. Ça marche? Maintenant, on a un problème par rapport à ça. C'est parce que ça s'est transmis de génération en génération que moi, je dois faire la Torah. Si c'est transmis de génération en génération, vous croyez un seul moment que ma grand-mère ne ment jamais. Si elle m'a dit, c'est sûr, c'est à 1000% vrai. Il n'y a pas des choses en cours qui sont perdues.
Faut ajouter le libre arbitre.
Jeter le libre arbitre. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit. Vous êtes conscient que c'est très, très, très faible de rattacher sa émouna du fait que de génération en génération, depuis la sortie d'Égypte, depuis le don de la Torah, on nous transmet ce qui s'est arrivé. Ah, c'est arrivé, il a fait, alors je suis obligé d'accepter ça. C'est une mauvaise compréhension de la Torah de dire une chose comme ça. Et là, nous, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est beaucoup plus fort que ça? Ce n'est pas un témoignage qu'on a témoigné. C'est du vécu. Nous avons vécu la sortie d'Égypte. Sinon, ou mieux, nous avons vécu le don de la Torah. Sinon, moi, David Partouche, je ne suis pas khayav de faire la Torah. Et je vous donne une preuve de la halakha. Dans le monde des yeshivot, on se pose la question. Est-ce que je fais la Brit Mila parce que ça a été donné à Abraham ou parce que ça a été donné au peuple d'Israël, au Sinaï? Réponse des poskim, c'est un long discours. Mais réponse des décisionnaires. Nous faisons la Brit Mila qui a été donnée au peuple d'Israël au Sinaï. Même si la bracha de la Brit Mila, on dit qu'il nous a sanctifiés par ses mitzvot de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham. Mais qui c'est qui nous a ordonné de faire la Brit Mila au Sinaï? La Torah qu'on a reçue au Sinaï. Maintenant, qui c'est qui a reçu la Torah au Sinaï? Pourquoi on ne fait pas comme Avraham Avinu? Si Dieu a dit ça à Avraham Avinu, il nous l'a transmis de génération en génération. Et on sait qu'on doit faire la Brit Mila par Avraham Avinu. Pourquoi la Halakha se casse la tête de dire c'est Avraham ou c'est Moshe? Parce que c'est un des yesodot, c'est un des bases fondamentales de notre Emouna. La Torah, elle a été donnée à la nation d'Israël, pas à des gens, pas à Moshe. Elle a été donnée à Israël. Et je vous donne un pétard, une ouverture pour comprendre ça. Dans les 10 commandements, il y a marqué « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Anochi Hashem Elokecha. Maintenant, quand il y a marqué « Je suis l'Éternel, Yudkevavke, Elokecha, ton Dieu. » À qui il parle?
Chacun de nous.
Il a fait. Moi, c'était Madrasha, avant d'arriver à la Yeshivé. C'était Hashem, il parle à moi. Eh bien, mais c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas le pshat. Ce n'est pas le sens simple. Et l'Okecha, c'est Israël. C'est la nation d'Israël. Qui sort d'Égypte? Attends, excusez-moi. Pas vous enlever le kiff de la sortie d'Égypte. Il faut être joyeux le soir de Pessah. Mais je vous rappelle que 80% du Ham Israël, des enfants d'Israël, sont restés en Égypte. Qu'est-ce que tu fais le soir de Pessah? La sortie de qui? Si tu as des yeux avec des lunettes qui voient des individus, alors tu ne fêtes pas Pessah. Comme Elie Wiesel ne veut pas fêter Yom Ha'atzmaut. Mais si tu as des yeux avec qui voient une nation, à l'intérieur de cette nation, il y a des individus qui dévoilent cette nation. Alors tu fêtes Pessah, parce qu'à Pessah, que tu le veuilles ou pas, avec toute la souffrance de la perte des individus, il y a la naissance d'une nation qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui était totalement engloutie dans l'Égypte et maintenant qui est sortie. C'est cette nation qui naît à Pessah. Et c'est cette même nation qui reçoit la Torah. Et Hachem ne parle pas aux tzadikim seulement. Il ne parle pas aux gens justes et érudits dans la Torah. Il ne parle pas au moins aux gens les plus simples. Il parle au Ham Israël. Il parle au peuple d'Israël. Maintenant, je vous pose la question. Où est le peuple d'Israël? Alors, je vais vous dire. Imaginez-vous que le Midrash compare le don de la Torah. Il compare ça à un traumatisme énorme. Sans donner de détails, il compare ça, c'est comme un grand traumatisme qu'une personne a vécu, c'est la même chose, le don de la Torah, ça l'a traumatisé. Imaginez-vous, Chas v'Shalom, qu'une personne ait eu un grave, grave accident. Et il s'en est sorti, traumatisme pour la vie. Maintenant, bonjour, tu le racontes, le lendemain de l'accident, tu le rencontres, tu lui dis, Shalom, comment vas-tu? Il fait, après ce qui s'est passé, mais comment je ne me rends pas compte, le traumatisme que j'ai eu, c'était une chose affreuse, énorme. Il a fait. Au bout de 7 ans, tu rencontres cette personne-là. Tu lui demandes comment vas-tu? Ah, comment tu peux me parler encore? Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que j'ai eu. Ok. 7 autres années, de nouveau, tu lui demandes la même chose. Il te dit, mais c'est ce que j'ai vécu. À un moment donné, tu lui dis la chose suivante. Écoutez bien cette phrase. Tu lui dis, au niveau de la matière, au niveau de la médecine, on a découvert que les cellules, au bout de 7 ans, elles sont totalement transformées. Donc, ce qui s'est passé il y a 7 ans, il y a ces 3 fois 7 ans, il y a 21 ans, tu as eu le temps de changer en 3 fois toutes tes cellules. Les cellules de jour de l'accident et les cellules d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout les mêmes. Elles ont déjà changé en 3 fois, 3 étapes. Comment tu peux me parler encore de ce traumatisme? Vous avez compris la blague? Qu'est-ce qu'il répond? Le traumatisme, il n'a pas touché ma peau. Nachon, j'ai plus de cicatrices. Tout est parti. Le traumatisme n'a pas touché mes os. La preuve, ils étaient cassés, mais maintenant ils sont reconstruits. Le traumatisme, il a touché mon âme. C'est ça qui a été traumatisé, mon nefesh, mon âme. Et cette âme, elle est restée la même durant le temps. Ceux qui s'occupent de médecine parallèle, ils savent très bien de quoi on parle. Quand on parle que le Sehel n'a pas de présent, passé, futur. Il garde en lui ce qui va se passer, même des années avant, des traumatismes, il garde, comme si c'était passé hier. Parce qu'il se rappelle, il ne fait pas une différence entre c'était avant ou après, c'est au présent. Donc l'âme, elle est au présent, même 21 ans après. Maintenant, je fais exactement la même chose. Et là, accrochez-vous, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre le rabbin du Kuzari, le Haver. Quand le Ham Israël reçoit la Torah, À qui on parle? Aux cellules des gens? Non. Aux oreilles des gens, des juifs qui étaient là-bas, des 600 000 hommes et des 1 million,2 million enfants d'Israël qui étaient au Sinaï? Non. Est-ce qu'on parle au nefesh, à l'âme vitale de chacun? Bien sûr que non. Est-ce qu'on parle à l'esprit des gens? Bien sûr que non. On parle à quoi? À l'âme, à la neshama. C'est quoi cette âme-là? C'est la seule chose qui existe dans le peuple d'Israël. C'est une chose qui n'existe pas ailleurs. Ça s'appelle l'âme d'Israël. Et cette âme d'Israël, c'est elle qui parcourt l'histoire. Désolé de vous rappeler ça, mais Adma ve'esrim shana bezrat Hashem. Jusqu'à 120 ans en bonne santé. Il y en a qui disent jusqu'à me'ashloshim shana, jusqu'à 130 ans en bonne santé. Ce que je souhaite à tout le monde et à nous tous. Mais nous sommes seulement les passeurs de quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui est beaucoup plus grand? L'âme d'Israël. Cette âme d'Israël, elle est éternelle. Cette âme d'Israël, elle parcourt le temps. Et je vous fais le dessin. Là, j'ai besoin de voir seulement moi. Désolé, ce n'est pas égoïste. Mais c'est pour voir si j'écris bien. On y va. Vous voyez ici la flèche? Ça, c'est Israël. C'est l'âme d'Israël. Cette âme d'Israël, elle est infinie. À un moment donné, elle a apparu dans ce monde-là. À quelle date elle a apparu? Je vais vous dire, c'est très très simple. Le 15 Nissan, 2448. On a la date à partir de quel moment l'âme sort de ce monde, apparaît. Okay, il y a plusieurs étapes dans là, mais je résume. C'est quoi le 15 Nissan 2448? Qu'est-ce qui s'est passé à cette date? C'est la sortie d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, cette âme apparaît. C'est comme moi, mon âme est apparue, le Vav Nissan, je ne vous dis pas quelle année. C'est-à-dire, l'âme est apparue. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a eu un corps, mon corps à moi, qui a été capable de recevoir cette âme-là. Cette âme-là, elle a pu se réaliser dans ce monde-là, dans ce monde-ci. Donc, c'est l'âme dans le corps. Très bien. De la même façon qu'il y a une âme individuelle dans un corps individuel, il y a l'âme d'une nation. Maintenant, quand l'âme s'est dévoilée, il y avait ce fameux 15 Nissan 2448, on était obligé d'avoir de 1 jusqu'à 600 000 hommes. Avec femmes et enfants, c'était 1,2 000. Si on n'avait pas ces chiffres-là, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Le Midrash dit, s'il manquait une seule chifra, s'il manquait une seule servante, c'est-à-dire la plus basse classe du peuple d'Israël, si elle n'était pas là, on n'aurait pas pu donner la Torah. Mais Moshe, il est là! Mais ce n'est pas Moshe qui reçoit la Torah, c'est le Ham Israël. C'est comme, tu donnes un cours, tu n'attends pas seulement les meilleurs, c'est le cours, ça appartient à tout le monde. C'est le peuple qui a reçu la Torah, par l'intermédiaire de Moshe. Ça, c'est 600 000 juifs qui apparaissaient, c'est ça qui était ici, donc les 1 200 000 parce que Ishto Kegufo, la femme et son mari, c'est une seule et même unité, l'intériorité et l'extériorité. Quand on parle de l'extériorité, on parle de l'homme. Quand on parle de l'intériorité, on parle de la femme. Donc la femme, on ne peut pas la compter. Désolé messieurs, les hommes, on nous compte. Le minyan, on nous compte. Les femmes, on ne peut pas compter parce que l'intériorité, on ne peut pas compter. Tout ce qui est extérieur, on compte. Le poids, la mesure, tout ce que vous voulez. Mais l'intériorité, on ne peut pas la compter. Donc, la femme qui est l'intériorité, on ne le compte pas. Interdiction de compter. C'est vrai? Maintenant, c'est pour ça qu'on parle uniquement des hommes, côté extérieur, côté du corps, côté du dévoilement. Ça, vous savez comment ça s'appelle en ivrite? C'est pour ça que si on connaît l'hébreu, déjà tu connais la Torah. Ça s'appelle d'or. C'est quoi d'or? Alors, c'est vrai qu'il y a le Midrash qui se sont endormis pour le jour où ils ont reçu la Torah, mais ce n'est pas ça. D'or, ça veut dire génération. Nahon, pas d'arvador, d'orvador, de génération en génération. C'est quoi d'or? En fait, c'est bizarre. Le mot qui veut dire génération, c'est le même mot qui veut dire dira. Maison, appartement. Une maison. La dour, c'est habiter. Dar, c'est l'habitation. Dar, c'est habiter. Anidar, j'habite. Qu'est-ce que c'est la génération? La génération, c'est ce qui permet à l'âme d'habiter dans ce monde. De la même façon que mon corps, il y a toutes ces cellules et tous les membres, etc., etc. Tout ça, c'est le dor de mon âme. Maintenant, quel est le dor? Quelle est la génération? Quels sont tous les éléments qui permettent à l'âme d'Israël d'apparaître? C'est les millions, les 13 ou 14 millions de juifs du monde entier qui permettent à l'âme de la dour, à l'âme d'Israël, l'âme de la nation d'Israël, d'habiter dans ce monde. À qui la Torah parle? La Torah, elle parle ici, au Israël qui se dévoile. Pas ici, ce n'est pas. Là, ça devient un peu compliqué. La Torah vient parler au dévoilement. Ici, c'est le peuple d'Israël, Am Béni Israël, le peuple des enfants d'Israël, c'est ce que Pharaon a vu. La Torah, elle a été donnée à eux, à ceux qui représentent Israël sur terre. Pourquoi? D'où je sais ça? Parce que c'est eux qui ont vécu l'Égypte. Hachem n'a pas dit « c'est votre âme ». Non, il parle concrètement. « Je vous ai fait sortir de la maison d'Égypte ». Il va parler « Kabed et Avicha et Imicha »« Respecte ton père et ta mère ». Moshe, à Kadosh Baruch Hu, Moshe va chercher la Torah. Kadosh Baruch Hu lui dit « Viens prendre la Torah ». Moshe monte au Sinaï pour recevoir la Torah. Les anges, ils disent « Qu'est-ce qui fait cette fils de cet être humain parmi nous ?» À Kadosh Baruch Hu lui dit à Moshe « Saisis-toi de mon trône et réponds au malach, réponds aux anges. » Moshe, qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit « La Torah, elle est pour nous. » Les anges disent « Non, on la garde ici. » La Torah, elle est pour vous, vous les anges. Est-ce que vous avez un Yetzara? Est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous avez le mauvais penchant de vouloir voler pour qu'on vous dise « Ne volez pas ». Est-ce que vous avez des parents qu'on est obligé de dire « Respecte ton père et ta mère ». Donc les anges, ils ont dit « Ok, prends la Torah. » La Torah, c'est le dévoilement du divin comme il est sur terre. Sa source est divine, mais elle se dévoile sur quelque chose de concret. Donc la Torah, elle a été donnée. Mais à qui elle parle, la Torah? Elle parle à l'intériorité d'Israël. À l'intériorité. Cette intériorité, de génération en génération, elle va se dévoiler dans d'autres générations. Elle reste infinie au niveau horizontal, mais reste limité au niveau vertical. Je vois certains visages d'étonnement. Je vous écoute. Bechavon.
Non, ça paraît tellement logique. C'est bizarre que la moitié de la planète y croit quand même dans un message qui vient seulement d'une personne qui a eu une illumination quand même.
Bien fait.
On peut se poser la question, comment c'est possible que la plupart des gens, ils y croient quand même?
Bien fait. Alors, la réponse, c'est qu'ils ont un être qui est préposé à tomber dans ce piège parce qu'ils recherchent, sont en recherche de quelque chose. Et c'est ce qu'on a dit quand on a parlé de Rambam. Rambam dira, la voix d'Israël qui devait être transmise aux nations, elle a été transmise dans l'impureté à travers la chrétienté et l'islam. Donc en fait, comment ça se fait qu'on a plus d'un tiers, on a fait le calcul ensemble je crois, 18 milliards de, pas 18 milliards, nous, rappelez-moi comment on avait dit, de 8 milliards,
c'était 80, plus de 80% de la population était chrétienne et musulmane.
Idiot, on arrivait à 70% de la population chrétienne et musulmane. C'est-à-dire chrétienne et musulmane. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent Israël. C'est ça qu'ils recherchent. Pas devenir Israël. Ils recherchent ce qu'on a voulu étouffer. L'âme de ce monde qui est Israël. Pas les juifs, Otpam, pas les juifs. L'âme d'Israël, c'est ce qu'on a voulu étouffer. Et la chrétienté, en voulant parler de ça, l'a étouffé. Et l'islam, en voulant parler de ça, l'a aussi étouffé. Mais au fond d'eux, ils cherchent Israël. Ils savent, ils veulent être Israël. L'islam, elle veut être Israël. Donc, il y a eu une écoute, mais une écoute qui était bonne, parce que ça les a sortis de l'idolâtrie. Mais au fond d'eux, ils cherchent Israël. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cru, même si ça paraît fou. C'est-à-dire, maintenant, mon ignan, il est comme ça. C'est que là, ça veut dire que le divin, il parle à l'âme d'Israël. Ce qui veut dire qu'à chaque Pessah, moi, à Pessah, cette année, Bezrat Hashem, avec toute la famille réunie, la grande famille, Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus de problème, tu dois vivre la sortie d'Égypte. Tu dois revivre, c'est-à-dire que tu dois ressourcer l'âme nationale qui est en nous, l'âme de notre peuple qui est en nous, pour vivre ce que c'est la sortie d'Égypte au niveau de notre nation. Et à chaque mitzvot, c'est comme ça. À chaque mitzvah que je fais, je dois me ressourcer de l'âme d'Israël que j'ai, de l'âme nationale que j'ai, l'âme du peuple que j'ai. D'où je sais, parce que c'est marqué, « Asher kidesha ni bemitzvotai vetzivani ». C'est ça qui a marqué? Non. Il n'y a pas marqué « Asher kidesha ni » qui m'a sanctifié moi. Moi, je suis... Le juif n'est pas kadosh. Le juif n'est pas kadosh. La seule chose qui est kadosh, c'est Israël. Le juif dévoile Israël, c'est autre chose. Il dévoile la Kdoucha, c'est autre chose. Il est passeur de Kdoucha, de sainteté, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on dit? Elokeinu d'abord, notre Dieu. Pourquoi tu dis Elokai, mon Dieu? C'est une affaire entre moi et Dieu. Non, parce que ta seule façon de te lier à Dieu, pour le peuple juif, pour le peuple juif, pour les juifs, c'est de se rattacher à ce qui a été vécu par le peuple d'Hachem. C'est quoi? C'est à travers la nation d'Israël. Donc tu dis Elokeinu. C'est qui Elokeinu? Notre Dieu, le Dieu d'Israël. Si tu fais les mitzvot, pas en tant qu'Israël, pas en tant que nation d'Israël, c'est pas une mitzvah. C'est une religion, c'est ça, qui n'existe pas en plus. Parce que c'est pas Hachem qui t'a ordonné à toi. Il t'a ordonné à toi parce que ta mère, c'est elle qui t'a donné la naissance d'Israël. Alors toi, pour respecter le nationalisme d'Israël qui est en toi, la nationalité d'Israël qui est en toi, la nature d'Israël qui est en toi, tu dois te comporter Israël. Mais il n'y a pas une relation directe entre David Partouche et Dieu. Ça n'existe pas, ça. Ça passe tout le temps par l'âme collective d'Israël. C'est là-bas où il y a la Kdoucha. Une dernière question, et la semaine prochaine, on commencera, Mamash. Mais là, on a déjà l'Agdama, l'introduction à ce que va dire Rabbi Yehuda Lévi face au roi des Khazars par rapport à notre Emouna. Par rapport à notre Emouna. Alors maintenant, regardez, moi, je vous conseille aussi une chose. Parlez pas trop de ça autour de vous, parce que ce n'est pas encore du tout clair. Il y a beaucoup de détails qu'il faut et ça risque de perturber plus qu'autre chose. On m'a enseigné l'élève du Rav Zuckerman, que Kadosh Baruch Hu Yishlach Lo Refuah Shlema, au Rav Zuckerman, qui est malade. Et son élève, c'est le Rav Zucker. Marrant, son maître, c'est Rav Zuckerman, son élève, c'est Rav Zucker. Et il nous enseignait à nous, il dit, il y a deux sortes de Torah. Il y a une Torah, tu peux enseigner, par exemple, Kli Sheni. Tu enseignes comment on fait un klishlishi, comment on fait un teshabbat. Toute personne peut comprendre. Tu lui montres, tu lui expliques, il fait, il est capable de comprendre. Maintenant, il y a une Torah beaucoup plus profonde. Que si tu commences à en parler avant que ça soit digéré, alors c'est très, très, très grave. Parce que ça va pas, c'est pas en train de se construire en toi. Bon, Hachem, vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas en train de faire un doctorat sur le Kuzari. On est en train de dévoiler, d'essayer de se rattacher à l'Emouna d'Israël. Donc, pas besoin d'en parler autour de vous. Parlez-en seulement avec des gens qui sont dans ce chiour-là. Ça, c'est best-seller. Vous pouvez poser des questions. Mais déjà, c'est de qu'on comprenne ensemble de quoi on a parlé. Ça nous fera avancer pour la suite. Ken, je vois une question. Anita, et ensuite, on finit.
Alors, Anita, votre micro était...
Je ne suis pas encore prophète. Je ne vous le dévoile pas.
Anita, il faut allumer votre microphone.
D'accord. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois « Zecher letziat Mitzrayim ».
Voilà.
De tout ce que vous avez... Et aussi...
Deux secondes, j'explique aux personnes. Toutes les mitzvot sont « Zecher letziat Mitzrayim ».« Zecher » ne veut pas dire « souvenir ».« Souvenir », mais dans le sens de « Zachar ».« Zachar », c'est le mâle. « Nekeva », c'est la femelle. « Zachar », c'est l'actif. Pour activer ce qui est né lors de la sortie d'Égypte. C'est ça, c'est Israël. Pour activer la Kdoucha d'Israël.
Et la deuxième chose que je voulais vous demander, c'est, vous nous avez demandé de le garder pour nous. Est-ce que c'est à cause de ce pidgam, Abracha Samoui Minaenaim, que tant qu'on ne parle pas d'une bracha, elle mûrit et elle se...
Mais ça, ce n'est pas par rapport à la bracha. Il y a une yann de Inara.
Mais il y a une bracha terrible à comprendre ça. C'est primordial.
Mais là, je parle d'une personne par rapport à nous. Moi, je vous raconte une histoire. Le Rav Benaroche est arrivé. Dès qu'il arrive, j'arrête.
D'ailleurs, vous êtes en Rav.
Quand j'écoutais ces shiurim il y a 25 ans du Rav Zuckerman, j'étais jeune et...
Plein d'enthousiasme.
Plein d'enthousiasme. Je voulais que tout le monde sache ça. Et mes amis qui étaient là, ils disaient, toi, tu es à la yeshiva, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu racontes. Et j'ai donné, ce que je vous ai donné là comme cours là, ah, j'ai donné pendant une heure, et, non, une heure, de shiurim sur la emuna, c'est quoi la vraie emuna, c'est quoi la da-da-da-da-da. À la fin du shiur, il s'est passé ce que le Rav Tsouker nous a dit. Il nous a dit, si tu as dévoiles une Torah qui est en train de se construire à l'intérieur de toi, et que tu la dévoiles avant l'heure, deux choses y vont se passer, que tu vas comprendre que ce n'est pas bien. Un, tu vas avoir mal au ventre. Et deux, tu vas dire, ils n'ont rien compris. Il m'a raconté 15 ans plus tard ce qui s'était passé 15 ans plus tôt. C'est exactement ce qui s'était passé. J'ai eu mal au ventre et j'ai dit, de toute façon, ils n'ont rien compris. Et j'étais pas bien avec moi. Alors, j'ai compris que là, il y a une Torah qu'il faut attendre jusqu'à
mûrir.
Ce que toi, bidouk, mûr. Rav Yoel, shalom. Shavua tov
lekoulam. Toda, shavua tov.
Shalom, Rav Yoel, votre microphone est éteint.